Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant, il est midi et demi sur France Culture. Une heure pour vous de retrouver le journal de Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia. Emmanuel Macron a donc choisi Sylvie Goulard pour représenter la France au sein de la prochaine Commission européenne à 54 ans. Cet énarque a été ministre des Armées dans le premier gouvernement d'Édouard Philippe. Il revient désormais à la future présidente de la Commission, l'Allemande Ursula von der Leyen, d'accepter ou non sa candidature et le cas échéant de lui attribuer un portefeuille dans l'équipe qui entrera en fonction le 1er novembre prochain.
Dans votre journal également, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé ce matin que le Parlement serait suspendu à compter de la deuxième semaine de septembre et jusqu'au 14 octobre. Soit deux semaines avant la date prévue du Brexit.
Oui, et du coup, l'opposition dénonce une manœuvre destinée à l'empêcher de stopper une sortie de l'UE sans accord.
L'Italie vit aujourd'hui une journée décisive.
Soit le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate parviennent à s'unir au sein d'un nouveau gouvernement, soit le président sera contraint d'annoncer la tenue d'élections. Puis en France, le MEDEF tient aujourd'hui et demain sa première rencontre des entrepreneurs de France. Université d'été au format rénové, largement consacré au grand débat de société. Invité du journal dans une vingtaine de minutes, Richard Girardot, président de l'ANIA, l'Association Nationale des Industries Agroalimentaires. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Les régressions de la démocratie et une analyse de la violence d'aujourd'hui. Ce sera avec notre invitée, la juriste Monique Chemier-Gendreau. Elle va aussi nous proposer les plans d'une nouvelle architecture mondiale pour ce qu'elle appelle et perçoit comme une société plus juste.
Merci et à tout à l'heure. Avec 24 heures de retard, la France a donc fini par livrer ce matin le nom de sa candidate pour la Commission européenne, Sylvie Goulard, 54 ans. Sous-gouverneur de la Banque de France, éphémère ministre des Armées au début du quinquennat et ex-députée européenne élue à l'époque sous les couleurs du Modem. Louise Baudet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors en choisissant Sylvie Goulard, Emmanuel Macron récompense un soutien de longue date, mais on imagine que ce n'est pas là la seule raison de ce choix. En quoi Sylvie Goulard était-elle la mieux taillée pour le poste?
Ex-conseillère politique du président de la Commission, Romano Prodi au début des années 2000, puis eurodéputée centriste pendant 8 ans à Strasbourg, Sylvie Goulard est une fédéraliste européenne convaincue. Spécialiste reconnue des sujets économiques et financiers disposant de puissants relais à Strasbourg comme à Bruxelles. Elle est énarque, vous l'avez dit, parle couramment allemand, anglais et italien, ce qui lui permet de négocier avec tous ceux qui comptent, souvent directement dans leur langue. Et elle entretient d'excellents rapports avec Ursula von der Leyen, ça tombe bien, ex-ministre allemande de la Défense, vous le savez. Un portefeuille que Sylvie Goulard a détenu un petit mois au début du quinquennat Macron, on va y revenir. Depuis un an et demi, Sylvie Goulard occupe le poste de sous-gouverneur de la Banque de France. Elle participe notamment aux grandes réunions organisées sous la houlette de la BCE, la Banque Centrale Européenne. C'est une femme au caractère bien trempé, comme on dit, qui dispose de la confiance d'Emmanuel Macron, qu'elle a rejoint très tôt dans la campagne présidentielle, taillée donc pour être le relais dont le président français a besoin à Bruxelles.
Alors, il y a tout de même une légère ombre au tableau, Louise, en l'occurrence, le boulet des affaires.
Eh oui, Sylvie Goulard a dû quitter précipitamment son poste de ministre des Armées dans les tout premiers jours du quinquennat Macron, en raison de soupçons d'emploi fictif au Parlement européen. Une affaire qui est toujours en cours. Le domicile de son ancien attaché parlementaire a été perquisitionné début avril dans le cadre de l'information judiciaire ouverte en juillet 2017 pour abus de confiance. La justice cherche concrètement à savoir si des collaborateurs d'eurodéputés Modem ont été en partie rémunérés par les fonds publics du Parlement européen alors qu'ils étaient en réalité affectés à d'autres tâches pour le parti. Alors le choix de Sylvie Goulard est-il du coup risqué? Non, répond l'Élysée qui souligne qu'elle n'a en deux ans jamais été convoquée ni entendue par la justice française. Elle va en tout cas devoir donner des explications satisfaisantes à Ursula von der Leyen tout d'abord et ensuite aux parlementaires européens qui vont devoir eux aussi l'auditionner.
Effectivement, le processus donc de constitution de la commission ne fait en réalité, Louise, que commencer à Bruxelles.
Oui, le casting déterminé donc par les États n'est pas encore complet. Il manque l'Italien ou l'Italienne, puisque la présidente de la Commission promet une équipe paritaire. Ursula von der Leyen a commencé à auditionner les candidats présentés par les États. Elle doit finaliser leur portefeuille. La commissaire française pourrait se voir dotée d'un périmètre économique couvrant le marché intérieur, l'industrie, le numérique, mais rien n'est fait en la matière. Ursula von der Leyen veut en tout cas finaliser le casting d'ici la mi-septembre, avant la séquence des auditions par les eurodéputés qui devront valider ces nominations. Processus qui doit se conclure par un vote d'investiture le 22 octobre et une prise de fonction effective du nouvel exécutif européen le 1er novembre.
Merci Louise Baudet. Depuis son arrivée à la tête du gouvernement britannique, la ligne est défendue par Boris Johnson sur la question du Brexit reste invariablement la même. Quitter l'UE à tout prix avec ou sans accord de divorce. Et c'est d'ailleurs peu ou prou le sens du message que son émissaire spécial, David Frost, devrait à nouveau délivrer aujourd'hui à Bruxelles. À cette nuance près, toutefois, que le Premier ministre conservateur entretient encore l'espoir que la menace d'un no deal fera voler en éclats le front uni des Européens et que des gouvernements isolés pousseront Bruxelles au dernier moment à faire des compromis, ou pour le dire plus clairement, à céder aux exigences de Londres en renonçant aux conditions déjà arrêtées et signées par sa prédécesseur Theresa May. Est-ce que sur la scène intérieure britannique, cette fois-ci la position de Boris Johnson divise toujours et encore profondément le pays, jusque dans le camp conservateur, dont une partie souhaite le maintien de liens étroits avec l'UE. De son côté, l'europhobe Nigel Farage, lequel mis sur l'hypothèse d'élections anticipées, n'hésite plus à menacer directement Boris Johnson de torpillage électoral si le Premier ministre ne décidait pas de rompre brutalement donc avec l'UE. Quant aux partis d'opposition, les travaillistes, les verts, les libéraux, ils se sont dit déterminés hier à contrecarrer d'urgence un Brexit sans accord le 31 octobre. Antoine Gignot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres. On le voit, Antoine, la partie de poker s'annonce toujours aussi compliquée. Et pour ne rien arranger, voilà donc qu'on apprend ce matin que le gouvernement a décidé de suspendre le Parlement jusqu'au 14 octobre, soit deux semaines avant la date prévue du Brexit, ce qui, Antoine, pourrait rendre improbable toute fronde parlementaire.
Absolument, oui. Le président du Parlement, John Bercow, parle d'ailleurs de scandale constitutionnel. 5 semaines de suspension en plein milieu d'une crise politique. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire moderne du Royaume-Uni. Les députés vont quitter le Parlement début septembre pour y revenir le 14 octobre, 15 jours donc avant le Brexit. Ils n'auront du coup pas suffisamment de temps pour présenter de nouveaux textes de loi et pour tenter de bloquer cette sortie de l'Union européenne. Colère dans l'opposition, les travaillistes dénoncent un affront scandaleux fait à la démocratie, les libéraux-démocrates parlent d'une déclaration de guerre à laquelle ils répondront par les poings. Le porte-parole du gouvernement et les conservateurs pro-Brexit, eux, eh bien, se réfugient derrière la procédure. Tout est normal, disent-ils. Le Parlement va être suspendu, comme à chaque changement de gouvernement. Les députés reviendront après le discours de la reine, censé inaugurer une nouvelle session parlementaire. Ce sera donc le 14 octobre. Mais face au risque grandissant d'un Brexit sans accord, plusieurs députés conservateurs rebelles envisagent désormais d'organiser d'urgence un vote de défiance pour faire tomber le gouvernement le plus vite possible. Les indépendantistes écossais mettent d'ailleurs en avant la nécessité absolue d'une action commune de tous les députés pour, disent-ils, arrêter Boris Johnson.
Merci Antoine Gignot en direct de Londres et puis toujours au Royaume-Uni. J'ajoute que le ministre des Finances a promis ce matin davantage de moyens pour les écoles, les hôpitaux et la police. L'occasion peut-être pour Downing Street de préparer le terrain donc à d'éventuelles élections législatives anticipées à l'automne. En revanche, le ministre a écarté toute largesse budgétaire à l'approche du Brexit. En Italie, les heures sont désormais comptées pour éviter la perspective d'élections anticipées qui pourrait faire du patron de la Ligue d'extrême droite, Matteo Salvini, le nouveau président du Conseil. Le président de la République, Sergio Mattarella, a donné aux deux formations, le mouvement anti-système 5 étoiles et le parti démocrate de centre-gauche, jusqu'à aujourd'hui pour sceller un accord sur la formation d'un nouveau gouvernement. Isabelle Labéry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial à Rome. Alors les discussions ont repris ce matin dans une atmosphère qualifiée de positive, même si en l'occurrence les deux forces politiques en pourparlers restent unies par une histoire d'aversion profonde. Et c'est bien là d'ailleurs, Isabelle, toute l'incongruité finalement de la crise actuelle. D'un côté, des tractations qui, si elles devaient aboutir, mèneraient à la formation d'une coalition entre deux anciens rivaux. Et puis de l'autre, un Matteo Salvini aujourd'hui isolé, mais dont la popularité en Italie lui donne encore l'espoir de gouverner seul le pays en cas d'élection anticipée.
Oui, d'ailleurs, l'issue de cette ultime phase de discussion entre les deux anciens frères ennemis reste incertaine parce qu'il y a déjà eu des coups de théâtre, des prises de bec et des rabibochages. Et aujourd'hui, ce n'est pas le plus simple puisque les 5 étoiles et les démocrates s'attellent à leur programme de coalition jaune-rouge et à la répartition des postes ministériels. Sur le fond, plusieurs points de consensus, on l'a déjà dit, réduction du nombre de parlementaires, relance de la croissance avec une attention pour les plus faibles et l'environnement. Il faudra toutefois quelques concessions sur le budget et avait un vrai grand écart idéologique sur la question migratoire, mais il est peu probable que ce sujet soit mis dès aujourd'hui sur la table. Sur la répartition des postes, les démocrates acceptent désormais la reconduction de Giuseppe Conte, le président du parti. Nicola Zingaretti l'a dit explicitement tout à l'heure dans une réunion avec les représentants de centre-gauche. Ils acceptent, mais demandent, je cite, un modèle de gouvernement différent et des équilibres acceptables pour tous. Ils aimeraient notamment les ministères de l'économie et des affaires étrangères. Or, les 5 étoiles n'entendent pas se laisser faire. Ils veulent profiter de leur statut de toujours premier parti au Parlement. Et l'affaibli patron du mouvement, Luigi Di Maio, est aujourd'hui vice-premier ministre. Il veut lui aussi un ministère clé. Or, pour les démocrates, Giuseppe Conte ne pourra être accompagné que d'un seul numéro 2, donc issu du centre-gauche. Voilà, tout cela reste à discuter aujourd'hui. Tous les partis ont rendez-vous au Quirinale, le palais de la présidence. Et vous le disiez, c'est à Sergio Mattarella que revient le mot de la fin, ce soir ou demain. Pour l'instant, seul Matteo Salvini, qui regarde de près ces discussions, le dit haut et fort. Qui a peur des élections? Tout le monde, sauf moi.
Merci Isabelle Labéry, en direct de Rome. La bande de Gaza était en état d'alerte ce matin après des attentats à la bombe dans lesquels au moins 3 policiers ont été tués et 3 autres blessés. Alors ces attentats d'origine encore indéterminée surviennent après une série de tirs de roquettes suivis de représailles israéliennes, sans compter de multiples affrontements à la frontière faisant craindre une escalade entre d'un côté des mouvements armés de Gaza et de l'autre l'État hébreu à l'approche qui plus est des élections législatives israéliennes du 17 septembre. Reste que l'armée israélienne, laquelle avait bombardé hier un poste militaire du Hamas dans l'enclave palestinienne, a indiqué n'avoir mené depuis aucune attaque. Ce qui signifie que ces 2 attentats suicides pourraient être l'œuvre d'islamistes. L'occasion de rappeler que le mouvement Hamas, issu des frères musulmans et qui exerce un pouvoir sans partage sur la bande de Gaza, est confronté depuis plusieurs années déjà aux défis représentés par les djihadistes au sein de la mouvance salafiste. Au Brésil, alors que les départs de feu progressent toujours dans la forêt tropicale et après avoir pris le parti de l'escalade dans la violente polémique avec son homologue français, le président Jair Bolsonaro, s'est finalement dit ouvert hier à une aide financière internationale pour lutter contre les incendies en Amazonie, à condition toutefois de contrôler les fonds. Un revirement qui intervient peu de temps après que ces incendies eurent non seulement provoqué une indignation internationale et fortement dégradé l'image du Brésil, mais aussi menacent à présent l'accord de libre-échange UE-Mercosur négocié depuis 20 ans. C'était il y a un an, jour pour jour, l'information résonnait comme un véritable coup de tonnerre.
Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement.
Ah, vous l'avez reconnu, évidemment, Nicolas Hulot annonçant donc chez nos confrères de France Inter sa démission de gouvernement. C'était il y a un an, jour pour jour, l'occasion de s'interroger. Qu'est-ce qui a changé depuis? Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour.
Y a-t-il eu un effet, Hulot?
Oui, sans aucun doute, même si depuis il n'a fait que de très rares apparitions médiatiques. La première à la fin du mois de novembre 2018, il est alors l'invité de l'émission politique sur France 2, émission au cours de laquelle il reconnaît une part de responsabilité dans le déclenchement de la crise des Gilets jaunes avec la hausse de la taxe carbone. Mais il explique qu'elle était évitable, cette crise, et il met en cause le gouvernement, affirmant avoir plaidé pour la mise en place d'un accompagnement social nécessaire, selon lui, pour faire accepter la hausse du prix de l'essence. Et il conclut « Je n'ai pas été entendu ». 3 mois plus tard, en février 2019, c'est un de ses proches qui fait parler de lui, le député du Maine-et-Loire Mathieu Orphelin, un ancien de la Fondation Hulot. Il annonce qu'il reprend sa liberté et quitte le groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Et il avance les mêmes arguments que Nicolas Hulot. Les petits pas en matière d'environnement ne sont pas à la hauteur et ne sont pas suffisants. 1 mois plus tard, le 5 mars, Nicolas Hulot, qui a repris sa place à la tête de la fondation qui porte son nom, s'associe à Laurent Berger et avec 17 autres associations et syndicats, il fonde le pacte du pouvoir de vivre et présente 66 propositions pour faire face à l'urgence sociale, économique et climatique. Et puis au début de l'été, il prend publiquement la parole pour demander aux députés à l'Assemblée de ne pas ratifier le CETA, le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. « Ayez le courage de dire non », leur dit-il dans une tribune au journal du dimanche, ce qui suscite alors le courroux d'Emmanuel Macron qui réplique « ça, il fallait le dire quand il était en responsabilité ». On peut donc dire que Nicolas Hulot fait aujourd'hui office de poil à gratter, qu'il a repris la position fonction et le rôle qu'il occupait avant son entrée au gouvernement, celui d'éveilleur de conscience, de lanceur d'alerte, et qu'il n'est sans doute pas étranger à la progression des préoccupations environnementales au sein de la population française, phénomène qu'on a notamment pu constater au moment des élections européennes en mai dernier.
Merci Stéphane Robert. 9,4 milliards d'euros, voilà le montant de la somme récoltée par Bercy ces 5 dernières années pour la régularisation des comptes cachés à l'étranger, c'est ce que détaille un rapport remis donc hier aux parlementaires. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Alors, il faut préciser qu'un service du fisc avait été spécialement ouvert donc en 2013 par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault à l'époque, après la fameuse affaire Cahuzac. C'est cette cellule qui a permis aux repentis fiscaux de déclarer des fonds placés dans des pays pratiquant le secret bancaire. Au total, plus de 47 000 dossiers ont donc été traités en 5 ans jusqu'à sa fermeture fin 2017. Mais même fermée, Catherine, cette cellule continue donc de rapporter au fisc français.
Oui, car c'est qu'il reste encore à cette cellule de régularisation des dossiers à traiter. Plus de 11 000 l'ont été l'an dernier, rapportant 938 millions d'euros au budget de l'État. Les contribuables ont en effet eu 4 ans pour déclarer des fonds placés dans des pays pratiquant le secret bancaire, une manière de régulariser leur situation tout en bénéficiant de la garantie de l'État français de ne pas être poursuivis au pénal. Ils n'ont donc écopé que d'amendes ou de pénalités. Dans les derniers dossiers traités, leur montant moyen était de 132 000 euros et les trois quarts des comptes concernés étaient localisés en Suisse. Alors désormais, pour lutter contre la fraude fiscale, le gouvernement s'appuie sur l'échange automatique d'informations bancaires, entré en vigueur en septembre 2017 entre une trentaine de pays. Et début juillet, le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a officiellement lancé le service d'enquête judiciaire des finances, cette nouvelle police fiscale créée par la loi sur la fraude fin 2018 et chargée de lutter contre les gros fraudeurs fiscaux. Ce corps de contrôle aura des pouvoirs d'enquête. Reste à savoir comment ce nouveau service de Bercy articulera son travail avec la brigade spécialisée qui existe déjà au ministère de l'Intérieur. Enfin, Gérald Darmanin a récemment esquissé les pistes de nouvelles mesures de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, comme une liste noire des plateformes, en particulier sur des sujets comme la collaboration avec l'administration fiscale et la collecte de la TVA. La fraude à la TVA représente environ 20 milliards d'euros de recettes fiscales perdues pour la France. Ces mesures devraient être dans le projet de loi de finances présenté fin septembre en Conseil des ministres.
Merci Catherine Pétillon. L'université d'été du MEDEF se tient à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Richard Girardeau, président de l'ANIA, l'Association Nationale des Industries Agroalimentaires. Bonjour monsieur.
Bonjour à vous.
Et à vos côtés pour vous interroger, Anne-Laure Jumet. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Peut-être avant de commencer, faut-il resituer, Anne-Laure, justement le contexte. Cette rencontre des entrepreneurs de France intervient à l'issue d'une crise sociale qui aura secoué la France pendant de longs mois. L'occasion donc de tirer peut-être les leçons des convulsions françaises en ouvrant assez largement portes et fenêtres.
Oui, d'ailleurs, le thème choisi pour cette édition, c'est « Nos futurs » avec un S entre parenthèses, un clin d'œil au mouvement punk des années 80. Mais l'idée, c'est bien de parler de l'avenir, celui du capitalisme. Climat, inégalité, conflit, voilà les grandes thématiques qui seront abordées. Et pour ces tables rondes, le MEDEF a tenté de faire vivre le débat. C'est ainsi qu'il avait d'ailleurs justifié l'invitation envoyée à Marion Maréchal Le Pen avant de devoir y renoncer. Mais sur ces deux jours, on pourra voir une représentante des Gilets jaunes converser avec le ministre de la Cohésion des Territoires et le patron d'un groupe de transport. On pourra aussi entendre des représentants d'ONG, connus ou moins connus. Et le MEDEF a même invité un chef indien d'Amazonie pour parler réchauffement climatique. Il faut dire que sur ces grands enjeux, l'organisation patronale reste aujourd'hui peu audible, alors que les entreprises sont de plus en plus nombreuses à se saisir de ces questions. Mais il veut justement changer d'image. Il compte d'ailleurs instaurer un dialogue permanent avec les ONG via des commissions thématiques qui seront appelées à se réunir tout au long de l'année. Il entend aussi avoir plus de capteurs dans les régions. L'objectif, c'est de construire un MEDEF de proposition en lieu et place d'un MEDEF de combat. La première organisation patronale ne veut plus être uniquement considérée comme une organisation de lobbying qu'on entend juste sur le poids trop élevé des charges en France.
Alors, Richard Girardeau, je le disais, vous êtes donc président de l'ANIA, l'association des industries agroalimentaires qui représente près de 18 000 entreprises, je crois, du secteur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que pour une entreprise ou donc une organisation professionnelle comme la vôtre, eh bien, il est plus que jamais important d'échanger avec la société civile et les corps intermédiaires?
Alors, c'est évident. Je veux dire, nous sommes dans une époque où les réseaux sociaux, les chaînes en continu, que ce soit les chaînes télé, les chaînes radio, nous incite tous, associations, entreprises, groupements, à dialoguer. C'est un peu au-delà de l'image qui correspond à votre introduction. Au-delà de l'image, je pense que c'est un devoir pour une organisation comme le MEDEF et toutes les organisations de se mettre en route, de commencer à lancer un débat qui doit aboutir sur des actions. On doit délivrer. Et je pense que dans nos échanges, on arrivera très vite à l'exécution des idées qui vont naître dans ces carrefours comme celui qui va durer 2 jours du MEDEF.
Richard Girardot, justement, oui, pour délivrer, il faut aussi avoir le temps de faire tous les investissements, avoir le temps de réfléchir à l'avenir qu'on veut construire. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises sont mûres pour ces changements? On voit qu'il y a quand même encore des résistances, des combats menés par des ONG contre les entreprises. Si on prend Nestlé, par exemple, on voit qu'elle peut être dans le collimateur d'ONG qui l'accuse d'épuiser les nappes phréatiques. C'est pas toujours simple, ce dialogue. Est-ce que la société est mûre? Est-ce que les entreprises et les ONG sont mûres pour ce dialogue?
Alors, le mûr, oui. Je pense qu'on est tous mûrs. Il y a forcément des points d'accroche. Comme je répète souvent, il y a le court terme, le chaud de émotionnel, le chaud des sujets. Si je prends la bouteille en plastique, qui est un sujet extrêmement polémique, oui, il y a le chaud de résoudre tout de suite, et on va commencer à le résoudre en s'attaquant à la paille qu'on utilise tous dans les bistrots un peu partout en France.
Vous trouvez que c'est un petit peu dérisoire, la paille?
C'est un symbole. C'est un symbole, c'est complètement symbolique. C'est pas avec la paille qu'on fait le 7e continent au milieu du Pacifique. Je veux dire, faut aller au-delà. Donc, il y a le court terme, et on est en train de gérer à court terme un sujet, on veut gérer à court terme un sujet qui est brûlant. Il suffit de lire, d'écouter, de voir ce qui se passe autour de nous. Mais là où vous avez raison, c'est que le long terme, et l'enjeu est très clair, il va falloir se passer du plastique. Là, à aujourd'hui, on est incapable d'arriver avec une solution viable à long terme. Que les entreprises, les pouvoirs publics, tous les intervenants de la chaîne de valeur des produits qui sont en plastique, quels qu'ils soient, et j'insiste là-dessus, il n'y a pas que la bouteille, le plastique nous envahit partout, nous n'avons pas aujourd'hui la solution.
Pourtant, on a des ambitions assez fortes du gouvernement avec ce projet de loi de Brune Poirson qui va arriver au Sénat très prochainement, dans le courant du mois de septembre, qui a pour objectif justement d'instaurer une consigne, d'avoir des bouteilles de plus en plus recyclées, avec un objectif de 100% de plastique recyclé.
Oui, mais...
Vous lui dites quoi à Brune Poirson, qu'elle est idéaliste?
Elle a entièrement raison, parce qu'elle enclenche la réflexion. Elle enclenche l'action. Mais tout ça nous fait rester sur le même modèle. Recycler, consigner, ok, c'est quoi? Du plastique. Donc je pense que la réflexion qu'il va falloir mener avec les industries agroalimentaires, mais au-delà de l'industrie agroalimentaire, c'est de remettre en cause ce modèle. Je n'ai pas de suggestion particulière, sinon je passerai du talent au génie, et je manque des deux, en l'occurrence, mais il va falloir réfléchir au-delà du modèle de la bouteille en plastique. Parce qu'effectivement, pour l'instant, tout ce qu'on a comme solution, c'est une paille en carton ou une paille en métal sur lesquelles les enfants se cassent les dents. Donc on n'a pas remis et on ne remet pas en cause pour l'instant le modèle. Et ça, comme vous l'avez dit dans votre question, est totalement juste, il va falloir remettre en cause, investir et remettre en cause notre modèle industriel, pour être très clair. Oui,
Et donc ce sont des grandes questions sur lesquelles vous allez vous pencher lors de ces rencontres du MEDEF. Demain, vous participez à un débat intitulé « Que mangerons-nous demain? Peut-on nourrir la planète sans faire souffrir ?» On aura l'occasion d'ailleurs d'y revenir sur France Culture, puisqu'on va parler bien-être animal lors d'un hashtag vendredi. Merci beaucoup Richard Girardot, d'avoir été avec nous, président non exécutif de Nestlé France et président de l'ANIA, l'Association des industries agroalimentaires.
Et merci à vous et à vos auditeurs.
Et merci également à Anne-Laure Jumet ainsi qu'à Lucien Lefebvre pour les moyens techniques. On termine avec un mot de météo. Une dégradation s'amorcera cet après-midi par le nord, tandis que de belles éclaircies feront leur retour par le sud. Quant aux températures, elles afficheront entre 20 et 33 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.